Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est très heureux d'être avec vous jusqu'à 15h et on vous attend très nombreux pour notre dernier débat. Est-ce que faire chambre à part, c'est la bonne solution pour être heureux à deux? On attend bien sûr tous vos témoignages au 32-16 et sur l'application RMC. Il y aura vers 14h30, RMC s'engage pour vous. Et Amélie Rosic qui tentera d'aider Johan, c'est un chauffeur VTC qui s'est fait arnaquer par une entreprise de location de voitures. Il est en galère aujourd'hui, Johan. Et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater. Et aujourd'hui, Martin Bourdin.
Et on va notamment parler d'Adrien Quatennens, vidé désormais par une plainte de son ex-femme.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite aux chiffres du jour. Un couple sur 10 fait chambre à part aujourd'hui en France. Conjoint qui ronfle ou qui bouge, besoin d'intimité. Les raisons de ces séparations nocturnes sont nombreuses, Martin Bourdin.
Avec souvent une motivation commune quand même, retrouver un sommeil de qualité. Parce que oui, entre les ronflements, ceux qui prennent toute la couette quand c'est pas toute la place, celui qui bouge tout le temps, celle qui travaille en décalé, qui vient se coucher après. Oui, pour certains, dormir à deux, eh bien, ça peut ressembler à un enfer. 10% donc des Français qui vivent en couple décident de faire chambre à part, d'après une étude de l'IFOP, mais en plus de cela, 6% ne le font pas, mais aimeraient quand même bien le faire, se retrouver tout seul dans son lit. Et plus on est âgé, plus on a envie de faire chambre à part, d'après ce que nous dit l'IFOP, une pratique qui semble beaucoup plus répandue dans certains pays qu'en France. Au Canada, par exemple, on estime qu'entre 30 et 40% des couples ont chacun leur lit à la maison.
Pourtant, ici, un réchaud.
La question, c'est est-ce que ça fait vraiment une différence, surtout sur la qualité du sommeil? Eh bien oui, ça a été prouvé scientifiquement par des chercheurs de l'Université de Toronto il y a quelques années à l'aide de scanners cérébraux. Les participants qui dorment en couple ne dorment pas aussi profondément que ceux isolés, d'après les chercheurs. Ceux qui dorment à deux sont constamment réveillés par le mouvement ou le son que l'autre émet.
Voilà. Ça s'appelle le ronflement.
Exactement. Bah, le ronflement ou ceux qui parlent aussi, des fois, dans
on
le
va s'arrêter là.
Bon, bah, c'est rare. Bon,
bah, ça arrive.
Est-ce que faire chambre à part, c'est une bonne solution pour être heureux à deux? On sera avec Catherine Solano dans un instant et puis avec vous, bien sûr, au 32-16. Mais je vais commencer avec vous, Thierry Moreau, qui est en couple depuis très longtemps.
Alors, je pense que si on fait chambre à part, c'est un peu le début de la fin. Si Daniel Riolo était là, il dirait...
Le verre est dans le fruit.
Le verre est dans le fruit. Voilà.
Bien sûr,
je
on l'embrasse.
Que, d'abord, il faut faire un peu d'histoire. C'est quand même un concept bourgeois, la chambre à part. On faisait des mariages arrangés, on apprenait à se connaître et faut quand même avoir une suffisamment grande maison. Je pense que beaucoup de
nos
compatriotes.
C'est un truc de riche, quoi.
Voilà, c'est ça, parce que je pense que beaucoup de nos compatriotes en France n'ont même pas de quoi donner une chambre à chacun de leurs enfants quand il y a des familles nombreuses. Donc, chambre à part, c'est quand même un truc un peu bourgeois.
Où il y a le canapé.
En revanche, moi, j'ai opté pour le lit large, 2 mètres de large.
Parce que. 2 mètres?
Ouais, parce que comme ça, on peut être chacun de son côté ou on peut être réunis. C'est un truc important. Pour la qualité du sommeil, c'est un truc important.
C'est chiant pour trouver les draps de la bonne taille, hein.
Ah oui, ça, c'est
un peu chiant, mais on en trouve.
Tu pourrais les repasser.
Et en revanche, si je me rappelle le début de ma vie amoureuse, je pense que le fait de se réveiller à côté de la personne qu'on aime,
oui, c'est beau.
C'est pour moi le marqueur. C'est-à-dire qu'on peut batifoler, on peut faire l'amour, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais se réveiller à côté d'une personne, pour moi, c'est le truc essentiel. Et la question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de me réveiller à côté de cette personne-là que j'ai choisie? Voilà. Et je pense que c'est ça le marqueur. Donc, je ne ferai pas chambre à part.
Et c'est un révélateur de sentiments parce que tu te rends compte qu'au début, tu te retrouves toujours collé à l'autre et que plus les années passent et moins t'es collé. Et qu'à la fin, les deux, ils sont
bordelis. Ah, moi, je ne porte pas qu'on me touche pour bien dormir.
Ah bon?
Oui, pour bien dormir.
Bon.
Ah bah si, bah
j'ai Jérôme Lavrieux, faites chambre à part ou pas vous?
Bah moi je suis célibataire, donc
ah oui, donc évidemment le problème ne se pose pas.
J'ai un grand lit. quand j'étais marié, on faisait pas chambre à part. Il y a une petite différence parce que moi je vois en tant que loueur de gîte parce que on est l'intrus qui voit ce qui se passe en fait. Il y a un problème culturel, s'il y a beaucoup de pays où en fait ils font pas chambre à part mais ils demandent d'avoir des lits séparés. Notamment souvent les Anglais.
Ah bon?
Et moi j'ai des lits où je peux les séparer. Et ils dorment chacun dans leur lit de 90 par 200 au lieu de dormir dans un 180.
Mais dans la même chambre.
Par 200, mais dans la même chambre, oui.
Mais quel est l'intérêt?
Ah ben je sais pas, mais parce que comme ça, ils bougent comme ils veulent, etc. Oui, je vais pas mettre des caméras non plus, donc chacun fait ce qu'il veut.
C'est quand même très bizarre.
Ils dans un lit, puis après ils se couchent chacun dans le lit.
Dans ces cas-là, chambre de une autre chambre.
Non, mais globalement, on va pas se raconter d'histoire. C'est plutôt des gens dont on peut supposer qu'ils ont passé le stade de batifoler en permanence à chaque fois qu'ils demandent ça. Mais t'as vu une fois de recevoir une famille qui, un couple avec un enfant, et j'ai un gîte où il y a trois chambres, ils ont occupé les trois chambres. Donc, le père et la mère avaient chacun leur chambre. Non, mais c'est le même prix pour moi. Ça me fait juste plus de ménage parce qu'ils ont utilisé une chambre supplémentaire. Mais je crois que l'important, c'est qu'on puisse avoir les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Mais je trouve l'exemple que vous disiez en début, on est collé et à la fin, on est séparé. Eh ben, il y a plein de gens qui vont se rappeler leur dernière nuit, ils vont trouver ça peut-être un peu triste.
Bah oui, mais enfin, c'est quand même une réalité. Ouais. Perico, les gars, faut quand même avoir confiance en l'autre quand on fait chambre à part, parce qu'on peut se dire que l'autre, pendant que vous êtes dans votre chambre à regarder une série, l'autre, si ça se trouve, il est sur Tinder.
Il faut être sur ce sujet philosophe et romantique à la fois.
Hein?
Oh. D'abord, la chambre à part est pour certains la secret de la longévité du couple. C'est justement parce qu'on n'est plus dans cette promiscuité du lit que ça peut durer, puis on peut se retrouver. Ça fait, vous savez, ça permet de créer des retrouvailles. On se retrouve.
C'est bourgeois.
Voilà, puis bien sûr, non, mais totalement bourgeois. Bon, vous avez des gens qui se détestent, qui continuent à dormir dans le même lit depuis des années, et c'est pour ça qu'on peut.
C'est pour se rappeler pourquoi ils se détestent.
Moi, je suis confronté à une situation terrible, c'est que je me couche entre 2h30 et 3h du matin. Quand je me couche, c'est vraiment l'éléphant qui s'assoit, et je pose toujours la question, est-ce que tu dors? Et elle me répond, je dormais. Jusqu'à que tu arrives.
Mais pourquoi vous posez cette question? Ça, c'est insupportable.
Je sais.
Est-ce que tu dors? Mais c'est le pire, ça.
Voilà. Donc, alors, il m'est arrivé, justement, pour ne pas gêner, de faire chambre à part, voilà. Et là, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une détresse très profonde. Ma présence était absolument
indispensable, j'imagine.
Alors, moi, j'ai un problème, c'est que...
Vous avez une tête à ronfler, en plus.
Alors, je ronfle de façon épouvantable.
Oui, ça, c'est sûr.
Les voisins l'entendent. Tout dépend du millésime que j'ai bu.
Que vous avez bu, oui.
Et surtout, je poulpe. C'est-à-dire que quand je m'approche, j'enlace.
On se croirait sur Ushuaïa, là.
Et là, j'ai besoin de tout contre, totalement. Voilà. Et puis, quand j'ai plus envie, au contraire, je pousse avec les pieds parce que le voisin gêne.
Vous êtes
Donc, je connais le problème par cœur. Okay. J'ai eu des parents qui faisaient chambre à part pour des raisons bonnes.
Et donc, vous ne faites pas chambre à part malgré tout ça?
Écoutez, je serais prêt à le faire, mais je vois que je manque, que la présence. Non, mais je vois que. J'ai souvent pratiqué, d'ailleurs, quelquefois la grève du lit. En allant coucher. Alors, le premier jour, rien du tout. Deuxième, troisième soir, la personne me disait, bon, on négocie. Mais la négociation, comment?
D'accord. Voilà.
Donc, c'est quand même le témoin de la vie d'un couple. Alors, est-ce qu'il y a libido, pas libido? C'est tout ça être relatif.
Ah, ben, quand il n'y a pas libido, non, c'est plus simple.
Je dis seulement qu'on peut être heureux en couple, on n'est pas obligé de coucher ensemble. Quand je dis
c'est mieux quand même.
Voilà. Bon. Et je connais des grandes histoires d'amour. Je connais même des gens qui n'habitent pas ensemble.
Ça aussi.
Gérard Horry et Michel Morgan, voilà.
Exactement. Hein,
vous connaissez la fâche de Michel Onfray. On n'est pas fait pour vivre à deux, on est fait pour vivre ensemble.
Et
cet ensemble peut être comme on veut. Voilà. Donc chacun y trouve son compte. Bien heureux les couples qui vivent ensemble.
Souvent, c'est une question de moyens après.
Voilà. Hein. Mais je connais des gens très âgés qui sont là le soir quand je vais les voir le matin, quand on va porter le petit déjeuner. Les grands-parents, ils sont là, blottis l'un contre
l'autre. Mais c'est beau, c'est ça, l'amour.
Ils ont dormi d'un sommeil serein tous les deux, ce qui n'est pas mon cas ni celui de
votre épouse qu'on embrasse. Marion nous appelle d'Orsay dans l'Essonne. Bonjour Marion.
Bonjour Estelle, bonjour à tous vos chroniqueurs.
Et Marion, vous faites chambre à part et vous êtes très heureuse, je crois.
Très heureuse. Ça fait 10 ans que je fais chambre à part. Parce que un petit peu ce que disaient vos chroniqueurs, mon mari ronflait énormément. Ah. Donc, ça devenait un sommeil qui n'était pas réparateur pour moi. Donc, depuis 10 ans, on a chacun notre chambre. On vit en pavillon. C'est aussi une chance. Tout le monde ne peut pas faire... chambre à part, et on y trouve notre compte. Les seules fois où on dort encore ensemble, c'est quand on va à l'hôtel ou qu'on part en vacances. Voilà.
Et ça vous manque pas quand même de ne pas avoir la présence de votre mari, Marion, à vos côtés?
Non, on a une présence autrement. Moi, je suis à la retraite, bien évidemment, et lui aussi. Mais dans mon lit, non, ça me dérange pas du tout, bien au contraire.
Mais Marion, admettons, si vous avez envie un soir de faire un petit câlin, donc ça veut dire qu'il faut aller gratter à sa porte, quoi. C'est quand même moins simple.
C'est ça, ou il vient gratter à la mienne, ça pose pas de problème. On a chacun, finalement, notre domaine, qui est notre chambre à coucher personnelle. Voilà, c'est notre fonctionnement et ça marche très bien.
Ou on part en week-end.
C'est ce que vient de dire Marion. Est-ce que gratter à la porte, ça rajoute un peu de piment, Marion?
Ah ben oui, je pense bien. Hein. Oui, même à 70 ans, ça en rajoute.
Hein. Eh ben super.
Eh oui.
Bah merci Marion d'avoir été avec nous et puis merci pour ce témoignage. Évidemment quand l'autre ronfle et que c'est vraiment insupportable, c'est sûr qu'il y a un moment où il faut faire quelque chose et manifestement ça réussit très très bien à Marion. Marine nous appelle de Nantes, bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Bonjour Marine.
Alors Marine, vous êtes team chambre à part ou team une seule chambre?
Alors nous ça fait 10 ans qu'on fait chambre à part, hein. J'ai 38 ans. Hein, ouais.
Ah vous êtes jeune.
Oui, en fait on a tous les deux des boulots physiques et du coup...
Marine, on vous entend très mal. Il faut vraiment que vous parliez dans votre micro.
Alors, je disais, on a tous les deux des boulots physiques et du coup, on n'arrivait pas à se reposer du tout. Voilà. Donc, on a.
Mais parce qu'il ronfle ?
Non, pas du tout. Hein. C'est pas une question de ça. C'est qu'il a un sommeil très léger. Donc, si je bouge, il se réveille. S'il se réveille, il bouge, il me réveille. Donc, voilà. Ça fait 10 ans qu'on fait comme ça et on est très heureux comme ça.
Mais alors, qui a pris la décision? Parce que quand même, Marine, ça doit pas être simple de dire à l'autre, surtout vous êtes jeune, ouais. Vous avez pris la décision, vous avez 38 ans, mais il y a 10 ans, donc à 28 ans, mm-hmm. Et ça doit être compliqué de dire à son compagnon, disons, j'aimerais qu'on fasse chambre à part, quoi.
Ah non, ça s'est pas fait comme ça, ça s'est fait tout seul, en fait. J'ai commencé à dormir de mon côté parce qu'il bougeait, donc je sortais de la chambre pendant la nuit. Mm-hmm. Et puis, ben, ça a fini comme ça. C'est que la semaine, hein, par contre, hein, le week-end, on se retrouve. Ah. Voilà.
Ah! C'est-à-dire que vous faites plus l'amour que le week-end?
Non, c'est pas vrai.
Ah. Donc vous aussi, vous grattez à la... Ah voilà, c'est ça, ça ne change rien.
Ça ne change rien à la vie de couple et au sentiment qu'on a l'un pour l'autre, hein, aucun problème. Voilà.
Et est-ce que vous allez contrôler ce qu'il regarde sur son téléphone par exemple, quand
non,
il...
Jamais, quand il... jamais. Je ne suis pas comme ça, non. Je lui fais confiance.
Bon, en tout cas, vous avez l'air heureuse, Marine. Et vous ne reviendriez dans sa chambre pour rien au monde?
Ah oh ben si, le week-end quand même, c'est la nôtre.
Ben merci Marine pour ce témoignage. On a l'impression que les gens qui font chambre à part sont très heureux finalement. Et je vous vois les yeux brillants, Martin. Je vous vois en train de lire vos messages.
Ouais, alors il y en a certains qui sont assez marrants. Rémi par exemple qui dit que lui fait chambre à part une fois par semaine, souvent le soir de Ligue des Champions. Ça évite de la dispute au moment du choix du programme. Et au final, chacun s'endort souvent devant lui, avant la fin du match, elle, sa femme devant, avant la fin de son film. Donc finalement, ils font chambre à part forcée. Puis non, ça plaît pas à tout le monde. Il y a Lolo par exemple qui a fait chambre à part la semaine dernière. Ah. Et le pauvre, il a eu le Covid, donc forcément, il s'est isolé, il a dormi tout seul. Et ben, il est impatient que son épouse revienne, elle m'a manqué, donc chambre à part, je dis non. Voilà ce que nous dit Lolo.
Oh, c'est trop mignon, parce qu'il est très amoureux, ce que j'ai. Le début, vous voyez.
Après, on peut être amoureux.
Oui, après aussi. Voilà. Oui, non, mais
la preuve avec Marine et Marion qui nous ont appelés.
Évidemment, on est avec... Oh là là, mais quel bonheur de retrouver Catherine Solano, notre sexologue préférée, cofondatrice de la plateforme de télésanté d'Optical. Bonjour Catherine
Solano.
Bonjour,
bonjour Estelle, c'est un plaisir pour moi aussi.
Ah bah tant mieux. Catherine, vous faites chambre à part, vous, ou pas?
Non, moi j'aimerais pas trop, j'avoue. Pourtant, je suis d'origine espagnole, et en Espagne, tout le monde fait... Enfin, pas chambre à part, lit à part. C'est comme, parlait tout à l'heure, les gens
avec
ont
Jérôme,
deux lits, dans la deux lits, une place, quoi, dans la même chambre.
Ouais.
Et ils ont quand même des enfants.
On peut être aussi amoureux quand on fait chambre à part ou pas, Catherine Solano?
Oui, je pense, parce qu'il y a une chose qui m'avait énormément frappée, c'est un livre de Jean-Claude Kaufmann, qui est sociologue, et qui racontait qu'il avait interviewé des femmes qui disaient « c'est horrible, je n'ai pas envie de dormir avec mon mari, je veux pas qu'il me touche, je suis recroquevillée sur le bord du lit, je suis à la limite de tomber pour qu'il me touche pas ». Et c'est des femmes qui font pas chambre à part, et pourtant...
Enfin, elles sont plus amoureuses.
Pas du tout. Ah ben non, pas du
ah
tout.
Bah alors.
Mais c'est pas une preuve, je veux dire, c'est pas parce qu'on fait chambre à part qu'on est amoureux. Par contre, on a entendu des personnes qui font chambre à part et qui restent amoureux, donc ça dépend. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a des solutions. Soit avoir un très grand lit, soit deux lits dans la même chambre, pourquoi pas, on peut les rapprocher aussi si on veut. Soit aussi, comme on a entendu, je crois que c'est Marine qui disait ça, qu'on se couche ensemble et puis celui qui est gêné ou qui s'endort après, il va dormir à côté. Donc il y a quand même eu le câlin ou la proximité pendant un petit moment.
Oui, donc... Voilà, et donc ça peut marcher. Il n'y a pas le risque quand même d'oublier un petit peu l'autre, vous voyez, parce que ça peut être sympa quand même quand on s'endort ensemble, on discute de la journée, tout ça. Si chacun va dans sa chambre, bon bah pour le coup il y a quand même moins de discussions dans le couple.
C'est plutôt que ça crée un manque quand on s'aime. En tout cas, ça crée un manque. On l'entendait par Marine qui dit on se retrouve quand même le week-end.
Oui.
Et une fois j'ai entendu un monsieur qui m'avait scotché. Il est rabbin, je crois que c'était le grand rabbin de Nice, ça fait longtemps, et il disait nous dans la religion juive, quand on suit certains préceptes, on ne doit pas se toucher pendant certains jours par mois.
Du coup,
il disait, on est mariés depuis longtemps et ma femme et moi, on se retrouve tous les mois, on est tout contents de se retrouver. Et j'ai entendu plusieurs patients me dire, tenir ça. Donc quand c'est bien vécu, ça va. Par contre, le problème, c'est s'il y en a un qui veut faire chambre à part et pas l'autre.
Là. Oui, mais ça, souvent, le couple, dans ces cas-là, se casse, hein, je pense, assez rapidement. Nicolas nous appelle. Oh là là, Nicolas, la chance, il nous appelle de Saint-Émilion. Ça va, Nicolas ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Mais oui, en plus, vous êtes dans la vigne, Nicolas.
Exactement, je suis en plein milieu, d'ailleurs.
Oh, bah, la chance que vous avez. Nicolas, est-ce que vous faites chambre à part, vous ?
Oui, tout à fait, depuis 5 ou 6 ans maintenant.
D'accord. Qui a demandé ?
Tous les deux. En fait, pour diverses raisons, ma femme s'endort très difficilement et moi je ronfle en m'endormant. Et au bout de 1 ou 2 ans, on a décidé d'avoir 2 chambres, mais vraiment 2 chambres, mais pas 2 chambres séparées. On avait chacun une chambre, mais on revenait soit dans un lit, soit dans l'autre.
Et est-ce que votre épouse vous a manqué au moment où vous avez commencé à faire chambre à part ?
Non, tous les soirs on se couche ensemble. Dans D'accord. une chambre ou dans l'autre, on reste ensemble, on se fait un câlin, et puis quand l'un s'endort et est dans son lit, bah l'autre ne faut pas dans sa chambre.
Et vous n'avez pas envie de rester même si l'autre s'endort ?
Non, parce qu'on sait qu'on dormira moins bien. On dort plutôt beaucoup mieux séparément.
Voilà, donc finalement vous êtes heureux, quoi.
On est très heureux comme ça. La seule chose à la rigueur qui pourrait manquer, c'est le matin, au réveil, où vous êtes tout seul, mais on n'a pas les mêmes heures de réveil, donc en fait... On s'y habitue très rapidement et la qualité de sommeil est tellement mieux que je ne reviendrai plus en arrière.
Nicolas, il va nous tenter. Hein. Au final, on va ressortir de cette émission, on va tous faire chambre à part.
Et je n'ai que 42 ans et ma femme a 38 ans.
Ah oui, d'accord. Ouais, vous êtes jeune aussi, comme Marine et son...
Ça, c'est un million. Le contexte est quand même peut-être plus...
Plus quoi ?
Ah, je ne sais pas. Peut-être plus... j'allais dire lubrique. Peut-être plus ludique.
Non, quand même pas.
Non, mais de vivre à Saint-Émilion. Non, mais c'est un beau village, c'est un vignoble, c'est un des plus beaux endroits de France.
Bah d'accord, mais juste.
Bah ça détend l'atmosphère, ça permet de coucher à part éventuellement sans qu'il y ait rupture du coup, vous voyez. C'est un environnement, c'est un paysage. Non, mais vous avez rien compris.
Oui, non,
un paysage peut favoriser l'adoucissement des mœurs et on n'est pas obligé d'être toujours dans le même lit quand on est à Saint-Émilion. Ou à Pomard.
Mais ou ailleurs, hein,
d'ailleurs. Alors qu'à Marc-en-Barœul ou à Vénissieux, peut-être qu'on n'est pas plus proche des uns des autres. Ouais.
Les clichés,
parce qu'il y a des trente ans, parce qu'il peut y avoir des tensions, mais vous comprenez rien à la géologie, à la sociologie. Il y a des territoires où il y a plus de tensions, plus de pression. Il y en a d'autres où on est plus. Voyez, en vacances, on va peut-être faire chambre à part plus facilement.
Ah non, c'est l'inverse.
Vous avez bien compris. C'est justement c'est
quand vous êtes bien, vous avez envie d'être à deux.
Dormir sur la plage, l'autre sur la.
C'est vous qui êtes minoritaire.
Vous êtes très minoritaire là.
C'est pas pour ça que j'ai tort.
En tout cas, merci. Merci Nicolas d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Oui, Martin.
David qui nous écrit sur Direct Studio et qui prend l'exemple de ses parents. Alors, il comprend pas comment ça s'est passé, mais il explique que ses parents ont voulu divorcer plusieurs fois et que depuis qu'ils font chambre à part, ils s'aiment plus que tout. Il comprend pas ce qui s'est passé, David, mais voilà le témoignage qu'il nous laisse sur Direct Studio. Puis il y a Val dans le sens contraire qui nous dit jamais sans mon homme après 26 ans de mariage, j'ai les pieds froids. S'il n'est pas là, contre qui je me réchauffe les pieds.
Mais ça, elle a entièrement raison. Et nous, les femmes, on a quand même très souvent les pieds froids.
Il y a des bouillottes.
Non, mais c'est pas pareil. Catherine Solano, justement, est-ce que ça peut rallumer la petite flamme, le fait de faire chambre à part ? C'est-à-dire que quand on est un peu plan-plan dans son couple...
Ah oui, ça peut créer un manque, mais je voudrais faire un petit appel quand même, parce que j'entends beaucoup de gens qui ronflent. Et quand on ronfle, il faut quand même faire 2 choses. C'est déjà un dépistage des apnées du sommeil, parce que ça donne beaucoup de problèmes d'érection, donc c'est pas terrible. Pas forcément tout de suite, mais au fil du temps.
Respirer ou faire l'amour, faut choisir.
La deuxième chose, c'est qu'il y a des exercices anti-ronflement, et ça marche, qui musclent l'arrière-gorge. C'est des petits exercices à faire, et ça peut marcher si on n'a pas d'apnée du sommeil. Donc, la solution au ronflement, c'est pas forcément la chambre à part, c'est juste ça que je voulais dire.
Olivier nous appelle de Combourg, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Il fait beau en Bretagne ?
Ah, il est super beau.
Il y a des caramels au beurre salé à Combourg qui sont extraordinaires.
Ah, je vous le dis. Le château de Châteaubriand, surtout, quand
oui,
même.
Oui, bah aussi, mais excusez-moi. Mais il y a aussi des caramels au beurre salé. Mais pardon.
C'est du château, le relais du lac.
Enfin, il se passe plein de choses à Combourg. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Olivier, est-ce que vous faites chambre à part ou est-ce qu'au contraire, vous restez collé serré avec votre moitié ?
Non, on fait chambre à part depuis environ un an et demi. J'ai un travail en décalé, je suis conducteur de train, je travaille très tôt le matin, je finis très tard le soir, ma femme a un sommeil hyper léger. Et d'un commun accord, on a décidé. Au départ, c'était comme précédemment la personne qui parlait. Au départ, c'est je me levais parce que j'ai que ma femme commençait à me pincer, à me bousculer, etc. Enfin, gentiment, bien entendu.
Bien sûr, on fait ça gentiment.
Et donc là, maintenant d'un commun accord, on a décidé de faire chambre à part, mais directement que je suis en repos ou en week-end, on se retrouve, les vacances bien sûr, et directement qu'on part en week-end.
Oui, c'est technique donc en fait.
Exactement, mais non, mais après c'est un petit arrangement en fait, mais est-ce que ça a rallumé la flamme dans votre couple, Olivier? Enfin, si tant est que ça avait besoin.
Très bien la flamme.
Exactement, lorsqu'on se retrouve, j'ai 52 ans, et qu'on se retrouve bien mieux qu'avant, lorsque c'était tous les jours, lorsque c'était toujours tous les jours la même chose. Et au contraire, maintenant qu'on se retrouve, c'est bien mieux sur tout rapport.
Ah bah écoutez, super. Bah merci Olivier en tout cas pour votre témoignage. Et Catherine, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que là tous ceux qui nous appellent et qui font chambre à part, qu'ils ont l'air extrêmement heureux. Mais est-ce que ça favorise pas quand même le fait de faire chambre à part, Catherine, un vrai fléau qui est l'usage des écrans? Parce que a priori, quand vous êtes avec l'autre, vous allez pas regarder, scroller sur Instagram, alors que quand vous êtes tout seul,
c'est vrai que par exemple, j'ai une patiente, elle fait chambre à part parce que son mari est sur son portable toute la nuit à faire des jeux et qu'elle n'en pouvait plus. Je lui ai dit, écoutez, elle dormait pas parce que ça la réveillait, donc je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible. Et elle me dit, je revis parce que j'étais au bout du rouleau au niveau colère et au niveau fatigue. Vous voyez? Donc les écrans, c'est pas terrible. Alors aussi, il y en a qui se couchent pas du tout à la même heure, donc ils dorment ensemble, mais à la limite, il y en a un qui se couche à 2h du matin et l'autre qui se réveille beaucoup plus tôt, donc du coup, c'est comme s'ils dormaient pas ensemble. Hein. Ça, c'est un peu la fin des couples. Hein.
Non, ça va très bien pour moi.
N'oublions pas une catégorie, c'est ceux qui sont obligés de faire à chambre à part, c'est-à-dire les dizaines de milliers de personnes qui sont célibataires géographiques pour des raisons professionnelles dans la semaine et qui habitent loin l'un de l'autre et qui, eux, n'ont pas le choix, ils ne se retrouvent que le week-end.
Oui, Mélanie Delaunay, qui est en régie, vous remercie pour...
Il ne faut pas s'arrêter à la chambre à part. Une petite aventure dans le couple. Une petite aventure extra-conjugale est la meilleure façon de vérifier que le couple tient encore. Et quand on retrouve la personne qu'on a laissée quelques jours ou quelques semaines, on se dit c'était elle ou lui la femme de ma vie.
Oui.
Mais la vérification doit
être... C'est un autre débat.
Alors, il faut que ce soit consensuel.
Il
ne
faut peut-être pas vérifier.
Non, il faut que ce soit consensuel. Voilà.
Moi,
je ne supporterai pas personnellement qu'on me le fasse. Mais je sais qu'il y a des gens qui
disent ça marche. Vous pouvez le faire à d'autres, ça ne vous gêne pas. C'est ce qu'on a bien compris. Écoutez, c'est un autre débat, Perico. Faut-il avoir une relation extra-conjugale pour le bonheur du couple?
J'ouvrirai la perspective.
Écoutez, on le fera demain. Catherine Solano, en tout cas, d'avoir été notre invitée sur ce débat. Catherine Solano, sexologue et cofondatrice de la plateforme de télésanté d'Octical. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, faire chambre à part. Est-ce que c'est une bonne solution pour le couple?
Les nombreux témoignages ne vous ont pas vraiment convaincu. Non, c'est une mauvaise idée pour le couple, pour 58% des auditeurs.
C'est kiff-kiff.
Parce qu'on a des couples solides.
On est un peu dans la marge d'erreur, là.
Non, parce qu'on a des familles solides. Notre auditeur, c'est des familles solides, bien constituées.
C'est ce qu'on a dit dans la République, quand même.
Non, mais les auditeurs qu'on a eu étaient très contents de faire chambre à part. Dans un instant, il y aura Amélie Rosic et on va tenter avec Amélie d'aider Johan. Il est chauffeur de VTC. Il s'est fait arnaquer par une entreprise de location de voitures. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h29 sur RMC. RMC Story, c'est l'heure d'RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et Amélie, vous avez été contactée à l'adresse RMC pour vous à rmc.fr par des chauffeurs de VTC.
Oui, ils sont nombreux à nous écouter tous les jours sur RMC. Ils ont décidé aujourd'hui de faire appel à nous. Johan a 31 ans, il est chauffeur et fin 2018, il veut changer de voiture. Il entend parler de Flexiflit, une entreprise de location qui permet de devenir propriétaire à la fin du contrat. Une bonne affaire, se dit-il.
Quand on va dans les locaux de Flexiflit, la personne en charge de vous faire signer les documents vous le dit clairement que vous allez devenir propriétaire du véhicule. La négligence que j'ai peut-être pu avoir, c'est en signant ce contrat, donc peut-être un peu dans la rapidité, dans le besoin aussi de devoir travailler. On voit pas cette petite phrase en haut, location longue durée. J'ai donné 49 000 euros en pensant devenir propriétaire du véhicule au terme du contrat.
C'est énorme.
Oui, 49 000 euros pour une Volkswagen Passat qui a fini par être saisie, parce que vous l'aurez compris, à la fin des 36 mois de location, rien ne s'est passé comme il l'espérait, comme il l'attendait. L'entreprise lui réclame des loyers supplémentaires et une indemnité alors que le contrat est terminé et finit par saisir donc le véhicule. Donc après 49 000 euros, pas de Volkswagen. Non,
49 000 pour une voiture de location, ça fait cher. Vous avez enquêté sur cette entreprise Flexiflit,
L'argument numéro 1 de Flexiflit, c'est justement de devenir propriétaire de son véhicule à la fin de la période de location. Donc pour le vérifier, bien, nous avons appelé le service client en prétextant vouloir nous-mêmes devenir chauffeur VTC.
En fin de contrat, étant donné que vous avez payé la totalité de la voiture, on fait une option d'achat justement pour devenir propriétaire du véhicule.
Je peux avoir le véhicule à la fin, c'est ça ?
C'est ça, monsieur.
Sauf que ce qu'on découvre derrière en recevant le contrat, c'est qu'il n'est pas du tout question en fait d'une location avec option d'achat, vous savez, du leasing. Ben en fait, c'est pas du leasing, c'est une location longue durée. Comprenez, une fois le contrat terminé, on doit rendre la voiture à moins de payer une indemnité de non-restitution. Sauf que ça, c'est écrit nulle part sur les publicités qui sont faites.
Ça s'appelle une arnaque. Et Amélie, vous avez reçu des dizaines de témoignages similaires d'autres chauffeurs VTC.
Absolument, et c'est une information RMC qu'on vous révèle aujourd'hui, défendue par maître Emma Léotti. L'intersyndical national des VTC a décidé de porter plainte contre Flexiflit pour justement escroquerie, abus de confiance, pratiques commerciales trompeuses et publicité mensongère. Brahim Ben Ali est son secrétaire général. Écoutez.
C'est une espèce de tromperie commerciale dès le début. On dit faites-nous confiance, vous savez, on est des partenaires d'Uber. Hein. Uber nous a choisis parce que voilà, ils ne travaillent pas n'importe qui. Donc c'est sur ce point-là qu'ils jouent. Et donc, les chauffeurs font confiance et finalement, signent des contrats comme ça, sans regarder, vous savez, tous les articles du contrat. Donc ils sont là à payer, sans discuter, sans rechigner.
Amélie, que répond l'entreprise aujourd'hui ?
Nous les avons contactés par mail et moins d'une heure plus tard, on a été contactés au téléphone directement par le directeur général de Flexiflit. C'est suffisamment rare pour être signalé, donc on vous le dit. Il dément catégoriquement les accusations des chauffeurs. Selon lui, les choses sont très claires dès le départ. L'accès à la propriété du véhicule n'est pas automatique et se fait uniquement après versement d'une indemnité. Nos offres, nous dit-il, ont permis à plus de 3000 VTC de devenir propriétaires de leur véhicule. Voilà ce qu'ils nous ont dit. On a également demandé des explications à Uber, parce que vous l'avez compris, Uber diffuse les offres de Flexiflit. L'entreprise, en revanche, s'est bornée à nous dire qu'il n'existe ni partenariat commercial, ni lien financier entre les deux entreprises. Sauf qu'on a quand même vérifié. Et la Cour de cassation, dans une décision du 4 mars 2020, a bien constaté que Flexiflit est partenaire d'Uber.
Ah, donc en tout cas, on va suivre le dossier de Johan.
Et la plainte, évidemment, qui a été déposée auprès du
tribunal de commerce. 49 000 euros pour une voiture de location, il ne faut quand même pas déconner.
Absolument.
On parle de quoi demain, Amélie ?
Demain, on vient en aide à Nathalie, qui a reçu une taxe foncière pour un appartement qui ne lui appartient pas. Alors, elle veut bien payer la taxe foncière ? Mais récupérer l'appartement du coup.
Oui, c'est mieux. Et puis la CDR cette année, elle est bien bien élevée. Voilà. Donc évidemment, c'est un gros problème. Et bien on essaiera de l'aider et on essaye à chaque fois, tous les jours, de vous aider vers 14h30. RMC s'engage pour vous at rmc.fr. Si jamais vous avez le moindre souci, et bien vous écrivez à Amélie et toutes ses équipes à l'adresse rmc.fr. Dans un instant, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, ce sera les immanquables. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Martin Bourdin, Perico Légas, Thierry Moreau et Jérôme Lavrieux. Et dans cette dernière partie, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et il y en a eu beaucoup depuis ce matin.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence les immanquables avec la première du jour, Martin.
Jamais un ministre en exercice n'avait été renvoyé devant la Cour de justice de la République. Et bien le premier, c'est Éric Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice, renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Il avait profité d'être ministre pour ordonner notamment des enquêtes administratives sur des magistrats. En tout cas, il est suspecté d'avoir profité de ce poste-là, des magistrats avec qui il avait été en conflit quand il était avocat. Éric Dupond-Moretti risque 5 ans de prison, 500 000 euros d'amende. Il ne compte pas démissionner. Ses avocats ont annoncé un pourvoi en cassation.
Alors, il ne compte pas démissionner, Jérôme Lavrieux, mais est-ce qu'il doit faire ?
Je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr que vous alliez vous tourner vers moi.
Moi, je peux me tourner vers quelqu'un d'autre, mais c'est marrant, je sens que ça vous intéresse.
Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il démissionne. Il va jusqu'au bout de ses droits à lui. Il se pourvoit en cassation pour vérifier que la décision est bonne ou pas. On attendra de voir à ce moment-là. Et puis, il peut très bien qu'il soit innocenté. Enfin, on ne parle pas de... C'est pas l'affaire du siècle. Hein.
Non, mais enfin, il risque quand même 50 prisons et 500 000 euros d'amende. Oui, on ne parle pas non plus de quelqu'un qui a volé une pomme chez l'épicier. Hein.
Oui, mais c'est assez théorique quand même. Moi, je pense qu'il y a eu quand même un problème dès le départ. C'est une espèce de refus par certains syndicats de la magistrature d'admettre le choix du ministre de la Justice. Oui. Oui. Parce qu'ils étaient depuis des siècles dans la co-gestion. C'est quasiment un comité de sélection qui nous choisissait le ministre qui leur convenait. Résultat des courses, la justice bougeait pas trop. Et ça, ça leur a pas plu. Rappelez-vous du mur des cons.
Ah oui,
c'est bizarre, le conflit d'intérêts. Le mur des cons avait affiché des tas d'élus, toute sensibilité politique, qui leur plaisaient pas. C'est les mêmes qui jugent les élus après. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts ou pas? Pourtant, là, ça a été classé sans suite. Problème.
Thierry Moreau, il est quand même dans une posture un peu délicate.
Je suis d'accord avec Jérôme, il faut qu'il aille jusqu'au bout de la procédure. Et encore une fois, c'est une peine maximale, donc il y a très peu de chances qu'on en arrive à cette condamnation, si tant est que la condamnation intervienne. Et je rappellerai une autre chose aussi, c'est que la cassation, c'est une procédure pour nos auditeurs qui ne juge que sur la forme. Est-ce que la procédure a bien été respectée? Mais pour le reste, effectivement, il est renvoyé sur le fond devant la Cour de justice de la République, qui est une procédure elle-même très très longue. Donc il va se passer de l'eau sous les ponts avant qu'une décision définitive soit prise.
Alors ce qui est sûr quand même, c'est qu'il y a plein de partis qui vont appeler à sa démission. Ça, on voit à peu près qui.
La France Insoumise, vous pensez?
Bah, j'imagine, ouais.
Moi,
quand
je
même.
Pense qu'ils ont des trucs à faire chez eux.
Oui, mais on en parlera après de l'affaire Quatennens. Mais ça risque d'être difficilement tenable.
Il y a quelque chose qui m'échappe.
Oui.
Une simple mise en examen vaut la démission d'un ministre. Jurisprudence ancienne qui a été appliquée systématiquement. Là, il est renvoyé devant la haute cour de la République, pour quand même une affaire qui ressemble à la prévarication, pour utiliser le terme précis, voilà, et il ne se met pas en retrait, il ne se met pas en retrait lui-même, en disant pour mieux me défendre, en plus il est ministre justement, de l'institution dont il dépend, et par
il
rapport
est
à qui,
par celle-ci.
Enfin, peu importe, il est le patron, c'est-à-dire qu'il va s'auto-juger.
Il
est ministre de la justice et il est confronté avec un problème de justice.
Il va pas être jugé par les magistrats.
S'il y a quelqu'un qui doit démissionner de son poste, le temps de l'affaire,
tu démissionnes pas le temps de l'affaire, parce que si t'es innocenté, tu reviens jamais de toute façon.
Mais ça n'existe pas, ton examen, c'est juste une mise en examen. Et il démissionne quand même.
Non, ça n'existe plus, ça. Non, c'était une jurisprudence qui avait été instaurée par Balladur, un ministre mis en examen démissionne.
Et maintenant, ça
fait au moins trois mandats
que
ça n'existe plus.
Macron est contre.
C'est une décision du président qui peut demander la démission.
Que ça a été validé à un moment donné.
Non, il n'y a pas de texte de loi là-dessus.
Mais je
ne parle
pas de texte de loi. Je dis que moralement, c'est politiquement, ça a été validé par principe. Non. Et que là, comme ça n'arrange pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui est mis en examen, c'est un problème. Il le traîne et il le paye. Et là, quand on va directement en haute cour, le ministre de la Justice, enfin, de lui-même, il aurait dû dire.
La haute cour, c'est pour trahison, donc on va rester dans les
termes. La cour de justice de la République.
C'est-à-dire qu'il va être jugé par des députés et des sénateurs.
D'accord.
Chose que Emmanuel Macron, comme François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, avait promis de supprimer, parce que c'est dérogatoire à tout ce qui existe dans les autres pays démocratiques.
C'est la plus haute juridiction politique de la République quand on est jugé. C'est qu'on a fait quelque chose de grave.
Non, pas du tout.
C'est faux.
Pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est que quand tu es soupçonné d'avoir commis quelque chose pendant que tu étais ministre.
Mais c'est gravissime.
Non.
Enfin, je suis soufflé de vous voir cette légèreté.
Ça se voit.
De lui-même. C'est un homme de loi, c'est un homme de droit.
Oui.
Il devrait dire parce que je suis ministre.
Mais justement, il va jusqu'au bout de l'utilisation du droit. Il a raison de le faire. Et si lui, il le fait pas, ça veut dire qu'on condamnera tout le monde rien que sur une simple mise en examen.
Mais je suis étonné d'entendre à peu près personne pour
soufflé.
L'instant sur ce.
On pinaille sur les termes, alors que moralement, sur le plan politique, il devrait évidemment démissionner. Très bien.
Allez, on va rester dans les tribunaux.
La magistrature qui gagne.
Avec la plainte du jour.
Plainte déposée lundi dernier, le 26 septembre, par Céline Quatennens, l'ex-conjointe du député Adrien Quatennens. Les deux sont en instance de divorce. Plainte dont on ignore pour le moment les motifs. Adrien Quatennens, ce jour-là, le 26 septembre, était entendu en audition libre. Une plainte, donc, après deux mains courantes déposées par sa future ex-femme, la première pour une gifle, reconnue d'ailleurs par Adrien Quatennens, la seconde le 24 septembre pour avoir reçu de très nombreux textos de la part de son ancien mari. Pour rappel, une enquête pour violence conjugale a été ouverte par le parquet de Lille à l'encontre d'Adrien Quatennens.
Et ça se corse pour Adrien Quatennens, Cyril Moreau.
Moi, je pense que depuis qu'il a avoué, parce que c'est lui-même qui prend la parole pour dire, un, qu'il a giflé sa femme, deux, qui lui a supprimé son portable, trois, qui lui a tordu le poignet, je pense qu'il ne peut plus être député. Et je pense que, à contrario de toutes les autres affaires dont on a parlé ici, Bayou, où les personnes se défendent, voire où il y a des non-lieux, où il y a des procédures en cours, où là on peut considérer effectivement que la présomption d'innocence soit nous protéger, là on a quelqu'un qui dit ce qu'il a fait, et qui ensuite continue à vouloir faire la loi. Alors, il se met en retrait, ce qui ne veut rien dire juridiquement.
Il était absent cet après-midi de la rentrée parlementaire. Il était absent cet après-midi à la rentrée parlementaire.
Alors, c'est encore pire que tout, parce que ça veut dire qu'il va quoi ? Rester cloîtré dans son bureau, ne pas voter les lois, laisser voter les autres. Enfin, c'est absolument ubuesque.
La justification qui a été donnée par Mathilde Panot, c'est qu'il gère son divorce.
Vaut mieux s'appeler bon, Dupond-Moretti avec...
Les gens, ils n'ont pas voté pour lui pour qu'il gère son divorce.
Non, mais voilà, c'est
il est payé 8000 balles par mois pour gérer son divorce dans son bureau.
Il vaut mieux s'appeler Dupond-Moretti avec vous. Parce que, justement, alors d'abord, je ne comprends pas. Sa femme dit, j'ai fait une main courante, mais je ne veux pas que ce soit médiatisé, je ne veux pas que ça lui porte préjudice. Finalement, quelqu'un a dû lui convaincre, la convaincre, elle, d'aller peut-être plus loin.
Mais c'est peut-être elle-même.
Ou alors, il y a eu d'autres choses.
Alors, elle ne dit pas qu'à ce moment-là, elle ne voulait pas qu'il y ait préjudice. Lui dit, voilà, la vérité, c'est une des rares fois où j'ai vu quelqu'un dire tout de suite, voilà, j'ai eu des gestes malheureux. Il est comptable de son mandat de député devant le peuple français qu'il a élu. Donc, tout ce qu'on peut lui demander, c'est de se représenter s'il veut. Voilà.
Quelqu'un qui a battu sa femme ne peut pas faire la loi.
En tout cas, il peut démissionner et se représenter et demander au peuple si le peuple accepte qu'il soit député ou pas.
Absolument.
Et s'il est réélu, qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il revient.
Il est député. Et la gifle devient quoi ?
Non.
Donc, je pense qu'on a mélangé les genres. Ce qu'il a fait moralement impardonnable sur le plan humain, ça ne dévalorise pas son mandat de député de la nation.
Ah, bah alors, tout le monde est d'accord. Et moi, je vais vous dire une chose. Dès lors que vous avez, il faut rester sur les principes de droit. Dès lors que vous avez rentré dans le code pénal une peine qui n'existait pas avant, qui s'appelle l'inéligibilité, ça veut dire que seul le juge, au terme du processus judiciaire, peut dire celui-ci, il doit démissionner ou il n'a pas besoin qu'il démissionne. Il peut être condamné à une peine qui ne soit pas l'inéligibilité. Si vous rentrez ça dans le code pénal, il faut être logique jusqu'au bout. Seul le juge, au terme d'un processus judiciaire contradictoire et pas médiatique, pourra dire Monsieur Quatennens ne peut pas rester député.
C'est à lui de démissionner parce qu'il a battu sa femme.
Si vous allez contre les principes du droit, vous allez tout perdre.
Toutes les associations d'aide aux victimes vous expliquent que une gifle, c'est déjà trop tard.
Mais je suis d'accord.
Donc, il doit de lui-même démissionner et, comme le dit Estelle, se représenter devant les électeurs. Mais effectivement, juridiquement, rien ne l'empêche.
Donc, ça veut dire que le suffrage universel annulera la gifle s'il est réélu. Tu es d'accord? Est-ce qu'une gifle en scène de ménage vaut annulation de l'élection? Voilà, c'est ça que je veux savoir.
C'est un délit, Perico.
Est-ce que la loi prévoit que ça provoque
Comme vous n'êtes pas d'accord entre vous, c'est le juge qui le dira parce que c'est ce qui est marqué dans le code pénal.
Donc laissons la justice faire son travail et le suffrage universel trancher. Voilà. C'est pas à des comités spontanés.
C'est à lui de démissionner.
Excuse-moi, Perico.
Il n'en a pas l'obligation. Il peut le faire s'il veut.
Il n'a pas d'obligation.
Alors là où il doit démissionner, c'est que lui a prôné pendant toute sa carrière politique. À ce titre-là, je veux bien qu'il démissionne.
Et l'année dernière, il a même pris la parole à l'Assemblée où il y a 2 ans pour expliquer qu'une main courante devait automatiquement enclencher une enquête.
Là, il est confronté à sa propre de la République.
Et tu n'es pas obligé de gifler ta femme pendant une scène de ménage, Perico Légas. Je suis désolé. Tu dis une gifle dans une scène
de
ménage.
Personne ne justifie la gifle. C'est un fait qui s'est produit. Il s'en explique. Quelque part, il demande pardon, il explique ce qui s'est passé. C'est un geste par rapport à d'autres qui ont toujours nié, qui est quand même relativement respectable, pour qu'on puisse comprendre qu'ils
sont... Quel geste respectable? Ah, le fait qu'il est...
D'avouer comme ça, clairement, ce que d'autres ne le font pas, ça veut dire que même si vous avouez, vous êtes lynché, ben, ils avoueront plus. N'avouez plus! Puisque quand on avoue, ça sert à rien. Je comprends pas. Et je ne le défends pas. Et ce qu'il a fait est impardonnable.
Mais ça devrait l'absoudre.
Quand on avoue alors que les autres n'avouent pas, ça mérite quand même un tout petit peu de considération. Ce mec n'est pas une ordure, n'est pas un salaud. Il a fait une erreur. Il a eu un geste tragique. Oui. Évidemment, il va le payer. Mais là, il a avoué. Ben, puisqu'il a avoué, il faut qu'il s'en aille. Eh ben, n'avouons plus.
Non,
c'est stupide comme réaction.
Non, mais Perico, sauf que sa femme, au départ, elle avait posé qu'une main courante. Là, elle a déposé plainte.
Alors, elle dépose une main courante. Elle dit, je ne voulais pas que ça aille jusque-là. Et maintenant, elle porte plainte.
Mais
je demande à comprendre tout ça.
Il s'est peut-être passé quelque chose.
Les juges, pour ce qui est judiciaire, et le peuple français, pour ce qui est politique. C'est pas au comité Théodule à décider à la place des autres.
1000 fois d'accord avec Perico.
On va passer au tweet du jour.
Et on reste chez LFI puisque ce tweet est signé Daniel Obono, député LFI de Paris, qui en réaction à l'avenue de Sandrine Rousseau hier à la manifestation de soutien aux femmes iraniennes, on en parlait tout à l'heure. Ce matin, Daniel Obono dégaine donc son clavier et tweet « Bonjour à tous et à toutes, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. ceux-là, mangez vos morts. Voilà ce qu'écrit la députée de Paris, Danielle Obono, sur Twitter ce matin.
Est-ce que ça vous choque, Thierry Moreau, ces mots?
Beaucoup. Après, plus rien ne m'étonne. Je ne suis pas surpris.
Moi, ça m'étonne, excusez-moi.
Je trouve ça inacceptable. On en revient exactement au tout début de notre discussion, oui. C'est-à-dire cette politique 2.0 en 246, où le but du jeu, c'est de faire parler de soi, où le but du jeu, c'est de parler comme qu'on parlerait à son pote de classe.
Non, mais personne ne parle comme ça. Enfin, excusez-moi.
Je connais
personne qui dit mange tes morts. Enfin, ça, c'est un truc, pardon, mais surtout pas les députés.
Il y a des gens qui parlent comme ça entre eux, mais je comprends même pas
ce que ça veut dire.
Je trouve ça inacceptable.
Hallucinant. Je comprends même pas ce qu'elle a voulu dire, tellement c'est hallucinant. Des trucs dans ma carrière politique, j'en ai vu. Des conneries, j'en ai dit beaucoup. Aussi, sans doute, trop. Mais alors, à ce stade-là, je suis perplexe de entendre « mange tes morts ». Si t'es pas d'accord avec moi, mange tes morts. C'est quoi l'argument de la polémique d'après?
Je sais pas.
Qu'est-ce qui va nous arriver après comme truc? T'es pas d'accord avec moi, mange tes morts. Enfin, on n'est même pas dans une cour d'école. On est députée, surtout. Bah oui, oui, surtout. Elle est députée.
J'ai une pensée émue
pour le général de Gaulle.
Pour un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect politique malgré les divergences.
Qui imagine le général de Gaulle
en train de dire bon,
vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que je dis en dérision.
C'était mieux avant, en attendant.
Non, je reprends pour les gens, les auditeurs qui voulaient écouter à la fin de ma phrase. Je pense à un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect politique malgré les divergences, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui est un vrai, quelque part, un homme d'État. Comment il a pu s'entourer de ces gens-là? C'est quoi ces gens-là? Mais d'où ils sortent? Où est-ce qu'il les a trouvés? Tous. Ce petit état-major, cette petite clique de Nupes qu'au départ, nous disions.
Ça fait beaucoup quand même, hein.
Alors là, ça commence la collection. Je pense qu'il doit se retourner, pendant sa tombe, parce qu'il est encore vivant. Mais il doit être en train de demander est-ce qu'il a fait le bon choix. Parce que tout d'un coup, les masques tombent, les voiles tombent, les chapeaux tombent, les dentiers tombent. Et maintenant, là, c'est mangez vos morts. Mais enfin, elle est députée de la nation.
Oui.
Ça vaut une gifle, hein.
Ce qui explique
gifle mentale.
Ah oui.
Ce qui explique la succession compliquée pour abonder dans ton propos.
Allez, on va terminer rapido avec la coupure du jour.
Oui, la coupure du jour. Attention, ça va trancher, nous diraient les nuls. En tout cas, il y a un vrai risque de coupure de signal sur le réseau mobile cet hiver. C'est une alerte lancée par la Fédération française des télécoms. S'il y a un hiver rude, l'acheminement en électricité des 97 000 antennes 4G de France n'est pas garanti. Pour faire clair, on pourrait bien être privé de réseau 4G sur nos téléphones portables en cas de situation critique. Les coupures de courant pourraient durer jusqu'à 2 heures, alors que les batteries de secours des antennes relais n'ont qu'une autonomie de 30 minutes.
Grande nouvelle pour rester le midi, on va enfin pouvoir se débarrasser de cette saloperie.
Du téléphone.
Si les auditeurs peuvent nous
aider. Là, vous allez voir qu'en disant aux gens qu'il risque d'y avoir des coupures de portable, là, tout le monde va éteindre sa box, sa cafetière, son four.
C'est l'argument, peut-être.
Faire des lessives à 3h du mat.
C'est peut-être l'argument.
C'est un très bon argument, Thierry Moreau. Vous ne trouvez pas?
Si, après, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je pense qu'il n'y aura pas de coupure parce qu'ils vont se débrouiller pour qu'effectivement il y ait suffisamment d'acheminement en acheter de l'électricité à l'étranger. Alors, effectivement, il y a un risque si l'hiver est rude, si ça se prolonge.
Ça fait pas partie des équipements prioritaires.
Mais très clairement.
De quoi, les téléphones portables?
Les antennes relais de téléphones portables ne font pas partie des équipements prioritaires à approvisionner en électricité.
Ah ben je crois que si.
Bah officiellement, non.
Il y a quoi? Administrativement non.
Il y a les hôpitaux, d'accord. Bon ok, les hôpitaux.
Les gendarmeries, les casernes de pompiers.
Vive ma vie de la diagonale du vide en France. Vous n'avez pas de relais, vous captez pas la 4G et dès que ça souffle un peu, la DSL tombe en rade pendant deux jours parce qu'il y a un poteau qui a pété la ligne téléphonique.
Il y a des villes j'ai moins envie de vivre. Vous voyez,
ça s'appelle la diagonale du vide.
Oui, je sais, merci, mais bon bah écoutez,
ça existe toujours en France, hein.
Oui.
Dans les équipements prioritaires, Estelle, il y a les commissariats de police, les casernes de pompiers, les hôpitaux et certains complexes industriels sensibles.
Et l'armée.
Je ne dis plus rien. Effectivement, mon téléphone portable passe après.
Okay, mes amis, vivement le retour.
Je sais m'incliner, vous savez.
Vivement le retour au Minitel. C'était quand même mieux avant. C'était formidable.
Mais enfin, il y avait quand même de l'électricité. Excusez-moi de vous le dire.
Trois fois rien.
Et puis dans un sac à dos, ça fait lourd. Hein.
Oui, ça c'est sûr.
Mais on reste à la maison, justement.
Bon, on est avec Vincent Moscato.
Oui.
Vincent Moscato. Voilà. Mais vous êtes où, Vincent?
On est direct du salon du bâtiment.
Non, mais formidable.
Là, si t'es une feignasse, que t'aimes pas la bétonnière, c'est pas la peine de venir. Hein.
Mais parce j'adore.
Nous, on est des maçons de l'info, des carreleurs de la gaudriole.
Mais
souvent
oui.
Des peintres, croyez-moi, et quand Pierrot il sort son pinceau, crois-moi, ça avance au niveau du boulot. 4 défaites d'affilée, l'OL peut-il s'en remettre?
On rentre à le vide. Je ne crois pas, non.
Estelle, dis-moi.
Ah, mais non, je te dis non.
Ah, oui, mais dis-moi le plus fort. Cri de cœur, Toulouse.
Je peux pas crier.
Toulouse avec l'équipe B, trop fort. Ils ont encore gagné ce week-end contre Montpellier, exceptionnel. Haaland est-il le plus fort? Il a mis un triplé. Un triplé, vous savez ce que c'est, triplé?
Oui, trois je... buts, oui ça me parle. On voit un hat-trick.
Tout simplement. Vous êtes régalé ou quoi?
Ouais, c'était bien.
Tu as passé un bon week-end? Qu'est-ce que t'as fait, Estelle?
Mais c'est rien, je suis restée à Paris. Voilà.
Un peu de bateau
Non, pas du tout. Bon, allez. Eh bien, écoutez, hein, et ben, bon salon, Vincent.
De la barque. De la barque.
Bien. De Boulogne, un truc, c'est ça.
Je t'embrasse. Je serai au studio demain. Demain, monsieur Péricot, je vous verrai. Je vous serrerai la louche, tout simplement.
Allez, salut Vincent, le super Moscato Show, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve demain, Estelle, midi, midi 15h sur RMC. RMC Stories, salut à tous.
RMC, 15h-18h, le super Moscato Show.